L'homme est un être social, écrivait Aristote. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. L'homme ne serait donc pas fait pour vivre seul. L'autre nous arracherait à une solitude mortifère. Pourtant, les rapports humains sont loin d'être un long fleuve tranquille et les relations, que ce soit au travail, en famille ou entre amis, se révèlent souvent plus compliquées qu'il n'y paraît. Cela a d'ailleurs largement inspiré la littérature ou le cinéma. On pense par exemple à cette scène de La Grande Vadrouille lorsque l'acariâtre chef d'orchestre joué par Louis de Funès grimpe sans vergogne sur les épaules du serviable peintre en bâtiment joué par Bourvil et l'oblige à le porter. Si cette scène amuse, elle montre aussi l'égoïsme et l'individualisme qui empoisonnent nos relations. Mais cet autre, qui est-il? Est-il un frère ou un ennemi? Allez, on en parle tout de suite avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, donc un nouveau cycle d'émissions sur nos rapports aux autres, à notre prochain ou à notre lointain, on ne sait pas trop, on va décrypter tout ça avec le père Jean-François Noël. Bonjour père.
Bonjour Sophie.
Vous allez bien?
Je vais bien.
Alors, l'autre, qui est-il exactement?
Bah, y a différents, on pourrait donner des catégories aux différents prochains avec qui nous partageons la vie intime. Là, je pense à la famille, ça c'est vraiment des proches prochains. Après, ça peut être aussi des voisins, des amis ou des collègues ou des avec qui nous partageons d'autres affinités. Voilà, et puis des gens que nous partageons. Pour dire, voilà, je me rappelle très bien être tombé dans une panne de train il y a quelques années. C'était l'époque non pas des virus mais des pannes de neige. Il y avait de la neige énormément entre Grenoble et Genève. Et nous sommes restés presque 10 heures et 12 heures ensemble dans le même wagon.
Avec des gens donc que vous connaissez pas.
Avec des gens que j'avais jamais, avec qui je parlais pas, avec qui nous avons commencé à parler et avec qui nous nous sommes tout dit.
Enfin, oula, c'est-à-dire?
Non, je sais pas, ça a été assez loin dans la confidence les uns les autres. Et arrivé à Genève, donc 10 heures après, c'était assez long d'ailleurs, puisqu'on est resté presque toute la nuit ensemble. On a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Et on était, je crois, très contents de se séparer et de ne jamais se revoir.
Et qu'est-ce qui explique que dans des circonstances comme ça, avec des personnes que vous connaissez pas, dans une circonstance angoissante, tout se dit?
J'en déduis deux choses. D'abord, nous sommes toujours hyper désireux d'être reconnus, entendus, accueillis, que c'est le fond de commerce de notre demande intérieure, qui est à la fois avouable et non avouable, d'être reconnu et entendu pour ce que je suis, et que je sens que mes proches sont pas si désireux que ça que de m'accueillir tel quel, c'est-à-dire ils croient me connaître ou ils croient, voilà, ils ont besoin de moi pour telle ou telle chose, et c'est pas forcément ce que je suis en profondeur ou que je voudrais être. Mais ça m'a montré que deux choses. Donc premièrement, que quelqu'un m'écoute et puisse m'accueillir tel quel, comme une chose étrange, inouïe, mystérieuse et un peu misérable, d'accord, ce que je suis. Et puis la vie quotidienne où j'attends de maman, de mon père, de mon frère, de mon évêque, de mon voisin, ce qu'il a à être, et la fonction qu'il doit remplir dans ma vie quotidienne. Voilà, je n'attends pas d'échanger avec la caissière des échanges profonds. Je veux qu'elle soit caissière au moment où j'en ai besoin. Et c'est pas forcément très aimable. Enfin, je peux essayer d'être aimable, vous voyez, mais les proches, comment nous réduisons souvent l'autre à la fonction dont nous avons besoin qu'elle remplisse pour nous.
Mais comment vous expliquez qu'on a du mal parfois justement à se confier à ses proches, que quand on a quelque chose à dire, quand on a besoin d'aide et tout, parfois c'est pas forcément les personnes les plus proches qui peuvent aider? Vous qui êtes psy, justement, les gens vous payent pour vous parler de choses qu'ils peuvent peut-être pas dire à leurs proches.
Eh oui.
Comment
on
explique ça?
On explique ça parce que le partage de la vie quotidienne a des exigences qui n'ouvrent pas forcément à la parole plus libre ou plus confidentielle. Voilà. Alors bien sûr qu'un couple marié, par exemple, peut échanger, doit échanger, mais je vois bien comme quand on propose au couple, vous savez, le devoir de s'asseoir, qui était une proposition faite par les équipes Notre-Dame, que le couple se donne des rendez-vous dans le mois, sans les enfants, et s'autorise à parler l'un l'autre. Et nous le faisons dans les propositions des couples alpha où on oblige, entre guillemets, les couples un peu à s'entendre, à se parler. Par exemple, à proposer à l'un de parler aussi longtemps qu'il veut sans l'intervention, sans que l'autre intervienne. Et ils disent tous que, en fait, ils l'ont pas, ils ont perdu l'usage de ce partage. Alors pourquoi ? Bah parce que la vie est plutôt fonctionnelle et qu'on privilégie le côté fonctionnel de la vie. Il faut emmener les enfants à l'école, il faut se faire vacciner, il faut qu'il passe son bac, il faut que tu changes de vêtements, voilà. Et que le côté fonctionnel mange. Mange le côté plus libre et plus décontracté, plus spontané, plus ouvert de la réception et de l'accueil de l'autre.
Et ouvrir sa conscience, c'est pas très simple avec l'autre, justement.
Non, et d'autant plus quand il y a déjà une partage d'intimité, comme dans une famille, par exemple, parce qu'il y a une intimité. Et il faut qu'on puisse se protéger de cette intimité nécessaire que la famille a, mais qui est une intimité provisoire, peut-être qu'on en parlera, à mon intimité propre. De toute façon, dans les familles, quand même, je ne partage pas l'idylle que souvent on entend dans les textes un peu pieux à l'égard de la sainte famille. Voilà, je trouve ça un peu exagéré, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les familles. Et à mon avis, même dans la sainte famille, ça s'est pas passé aussi idylliquement. D'ailleurs, un des premiers éléments qu'on raconte, c'est celui de la fugue de Jésus. Quand il disparaît, que son père et sa mère le cherchent inquiets, ne vois-tu pas que ton père et moi, ou ta mère et moi, nous te cherchons inquiet. Combien de fois j'ai entendu dans mon enfance mon père dire « ta mère et moi », qui me déplaisait évidemment et m'irritait profondément. Nous sommes inquiets, nous posons des questions, etc. Mais vous voyez, Jésus n'est pas passé outre ces difficultés, non pas qu'il ait fait une fugue d'adolescent, mais qu'il se sépare de la famille. Et une famille, c'est fait pour être à la fois un lieu d'intimité, de construction d'intimité, pour sa propre intimité, pour un jour l'offrir à un autre. C'est pas un lieu définitif, c'est un lieu de passage. Donc la famille est un lieu où on doit à la fois apprendre à partager tout. Voilà. Au début, quand on est bébé, on partage tout, on retient rien. Et puis progressivement, on va construire cette intimité grâce à l'intimité de la famille. Puis on va un jour s'en séparer. Donc c'est ça la famille. Donc après, on n'a jamais fini de construire sa propre intimité, sa propre identité par rapport, surtout dans une famille, par rapport aux autres.
Alors le rapport aux autres, ça rythme la vie, hein, on y est tous confrontés. Alors quand on dit l'autre, est-ce que c'est forcément des personnes vivantes ? Est-ce que ça peut être des liens aussi avec les défunts de nos familles ? Est-ce qu'on peut les considérer justement, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, est-ce qu'on peut compter dedans les défunts ?
Ah oui, absolument. Moi, expérience personnelle et puis expérience pastorale, je vois bien à quel point les défunts, d'ailleurs comme dans les grandes traditions religieuses, pas que chez les chrétiens, mais évidemment principalement chez les chrétiens, peuvent scander et habiter notre histoire personnelle, ne serait-ce que par exemple, pas que par le souvenir, parce que nous sommes absolument solidaires les uns des autres et que ce que je suis peut hériter de mon grand-père ou de ma grand-mère que j'ai peut-être perdu très tôt et dont j'ai même oublié le souvenir et qui en fait m'habite et dont je suis l'héritier. Donc les choses, et puis alors il y a aussi plus profondément, à un moment donné dans le travail de deuil, après le temps de la sidération, de la douleur, une sorte de relation un peu indicible entre le défunt et soi qui fait que on vit avec eux, on pense à eux et peut-être qu'ils pensent à nous, et je sais pas, dans une sorte de conversation un peu étrange. Enfin, moi, je l'ai par exemple avec mon propre père où ça n'était pas si facile que ça entre lui et moi. Et maintenant, en fait, il est très présent. Avec beaucoup d'attention, voilà. Je suis très content que mon papa s'occupe de moi. Mais vous voyez, je suis un vieux monsieur, mais eh bien, parce que maintenant je pense à l'âge qu'il, quand il avait mon âge, voyez, c'est ça que je pense. Quand il avait mon âge, j'avais quel âge, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il devait, etc. Et donc, je retrouve en moi des éléments. Donc, il y a des choses qui communiquent. Donc, les défunts sont des proches. Alors, évidemment, d'ailleurs, on fait ce qu'on veut puisqu'ils répondent pas. Donc, c'est bien commode cette histoire. Mais moi, j'ai des pas des preuves, mais des expériences où vraiment il y a eu une interaction profonde, une paix qui a été induite entre les défunts et les... Et c'est le but du travail de deuil, que d'accepter leur départ, de ne plus leur reprocher leur départ, parce que ça nous a fait souffrir, donc on a envie de leur reprocher, d'accepter qu'ils soient morts et en même temps vivant autrement, voilà.
Alors je reviens à des choses un peu plus terre à terre. La société dans laquelle on vit est une société quand même de surconsommation. On voit les rapports avec les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, nos rapports ont changé ? Est-ce qu'ils sont devenus un peu plus artificiels les uns avec les autres ? On voit, on poste très facilement des choses qu'on peut regretter par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En fait, la grande excitation ou la grande inquiétude depuis le début de notre vie, c'est l'autre. Et nous allons aller de cercle par un cercle concentrique qui s'élargit de plus en plus à des altérités de plus en plus étranges. Voilà. C'est ça le but de la vie, c'est de s'ouvrir à des altérités que nous n'avions pas prévu de rencontrer. Voilà. Donc au début, je sais pas, quand les mamans viennent avec les enfants dans les bras pour préparer un baptême à la paroisse, l'enfant, il me scanne de haut en bas pour voir si c'est ami, ennemi, sympa. Et comme il fait un peu la tête, la maman dit toujours « Oh, mais vous verrez quand il vous aura adopté. » Et de fait, après, il devient un enfant, avec tout ce que ça comporte de charme et d'irritation, voilà, c'est ça. Et donc, l'enfant, il scanne. Donc, il scanne quoi ? Il scanne, est-ce que je peux le considérer comme ami ou est-ce que je peux faire confiance ? Est-ce que... D'ailleurs, regarde entre la maman et moi s'il y a un accord de confiance. Si la maman n'a pas confiance, par exemple, l'enfant va se rétracter. Donc, l'enfant, on passe notre vie, quand on est enfant, à se domestiquer et s'apprivoiser à l'altérité. Alors, la pire, c'est le frère aîné ou la sœur cadette, dont on va reparler, parce que ça, c'est le grand truc le plus difficile, mais le plus intéressant sur la première altérité. Puis après, ça va être les copains, les copines de l'HLM, enfin, de l'immeuble dans lequel ils sont, puis après, les copains d'école, etc. Et on va aller de plus en plus loin, jusqu'on va aller, voilà, jusqu'à la rencontre avec, voilà, je me rappelle, moi, la première fois que j'ai vu un noir dans ma classe. Enfin, je me rappellerai très bien. Parce que moi, ça a suscité une sympathie immédiate, alors que d'autres, voilà, ont plutôt, enfin, vous connaissez la cruauté éventuelle. Mais vous voyez, la cruauté, elle vient de la difficulté de l'altérité. S'il y a un enfant qui est différent, moins exubérant, plus timide, ou qui a un petit défaut physique, les enfants sont assez cruels à cet égard. Ils manifestent très vite leur agressivité à l'égard de la différence. Et donc, toute notre vie est branchée sur l'apprivoisement de la différence. Voilà. Et ça va aller jusqu'à aller rencontrer d'autres familles et de voir comment... Moi, j'étais toujours étonné, je me rappelle, quand j'étais enfant, quand j'allais dormir dans d'autres familles, je pensais que tout le monde vivait comme la mienne, que les codes étaient les mêmes. Mais non, pas du tout. Les codes chez mes amis étaient beaucoup plus intéressants, d'ailleurs, enfin, à mes yeux, que dans ma famille, qui était évidemment... Donc, je m'empressais de dire à mes parents que chez les 1X, c'était beaucoup plus sympathique que chez nous. Bon, ça, c'est les enfants. Mais voyez bien qu'à travers ça, se déploie et s'ouvre de plus en plus le goût. Pourquoi ? Parce que l'autre m'inquiète autant qu'il m'attire. C'est ça le principe. C'est que l'altérité, ce qui est le fin mot de toute psychique, à la fois m'inquiète énormément parce qu'il vient perturber mes idées, mes préjugés, et en même temps m'attire. Et donc ça peut... C'est des forces très puissantes qui peuvent aller jusqu'à l'adoption. Je sais pas quoi, il y a des gens qui rencontrent un jour le pays, je sais pas, l'Afrique, le Haïtien. Enfin, voilà, je pense ça parce que Haïti, ça a été... Je me suis senti complètement désarçonné parce que j'étais pas chez moi et en même temps totalement attiré par cette civilisation différente. Voilà. Donc je comprends des missionnaires qui sont tombés amoureux du Bénin, de l'Afrique, de Haïti. Enfin, j'écoutais l'interview du prêtre qui a été kidnappé en Haïti. Il aime profondément le monde haïtien. Donc l'altérité est différente. Là. En fait, pourquoi ? Parce qu'au terme de toute altérité, en fait, il y a Dieu.
Pour terminer, je reprends ma question du début. L'autre, frère ou ennemi ?
Ben, les deux. Ça veut dire qu'il est à la fois celui dont il faut alors que je fasse taire ou transformer l'inquiétude qu'il suscite pour le transformer en ami. Il y a une énergie colossale derrière la rencontre avec l'autre. Donc il est à la fois, il peut être considéré comme un ennemi jusqu'à ce que je le déclare comme ami.
Merci beaucoup Père Jean-François Noël. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. Alors aimer son prochain comme soi-même, est-ce possible ? C'est la question que nous nous poserons la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous donc mercredi prochain à 11h pour en parler. Bonne semaine à l'écoute de RCF.
Psy et Spi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.